Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Or, il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis, et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête de Noël, c'est la première messe de Noël, la messe de minuit. En ce jour, l'Église est enfin exaucée. Dieu a entendu, mes très chers frères, et il a entendu ses prières, ses soupirs, ses gémissements, et Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, notre Sauveur. Les anges font éclater leurs louanges dans le ciel, les hommes sont dans l'admiration et l'étonnement. Le temps de l'Avent est accompli, la promesse a été réalisée par Dieu. Mais au sein de notre joie, car nous sommes aujourd'hui dans une très grande joie, puisque c'est la fête de Noël, au sein de notre joie, gardons les yeux de la foi grand ouverts. Ne nous laissons pas aveugler par de fausses espérances. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né pour nous flatter. La grandeur du remède, comme nous l'avons vu hier, la grandeur du remède nous donne une idée de la hideur du mal à soigner. Alors nous aurons à voir aujourd'hui plusieurs choses avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous dirons un mot de l'abaissement du Fils de Dieu dans son premier avènement, et nous verrons comment l'amour de Dieu révolte le vieil homme. Nous verrons ensuite les merveilles de la grâce du Christ, et comment elle opère en nous, et nous verrons aussi ce qu'elle fait de nous. Et nous terminerons en voyant comment le Christ nous a lui-même délivrés de l'antique esclavage du démon. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Chaque jour, à la fin de la messe, lors de la plupart des messes, nous lisons l'évangile selon saint Jean, qui dit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Et à ce moment-là, nous agenouillons. Ces paroles sont aussi glorieuses, mes très chers frères, elles sont aussi glorieuses pour nous qu'humiliantes pour le Fils de Dieu. C'est pour cela que nous nous humilions avec lui, ou plutôt que nous l'adorons dans son humiliation. Si vous remarquez bien, nous ne fléchissons pas le genou, lorsque nous disons qu'il est mort, qu'il est descendu aux enfers. Nous fléchissons le genou lorsque nous disons qu'il s'est incarné. Car si l'on devait faire une comparaison entre les différents aspects de l'incarnation du Verbe, nous comprendrions assez rapidement qu'il y a eu moins, en quelque sorte, moins d'ignominie à mourir pour le Fils éternel de Dieu incarné qu'un être. Lorsqu'il est né, lorsqu'il s'est incarné dans le sein de la très sainte Vierge Marie, eh bien, il a accompli cette action incompréhensible, qui n'est incompréhensible pour la raison, incompréhensible même sous un certain rapport pour la théologie, c'est-à-dire pour ce que l'on peut dire de Dieu, mais compréhensible simplement par son grand amour, le grand amour dont il nous a aimés. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Comme nous le disons souvent, ne nous imaginons pas que le Verbe s'est fait chair par le désir d'expérimenter la merveilleuse condition humaine. La condition humaine, revêtue de la beauté de l'état d'innocence, n'est jamais que la copie dont l'original est le Verbe éternel de Dieu, et qui plus est aujourd'hui une copie déformée, dégénérée, une copie qui a prévariqué, une copie déchue. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, il est venu nous chercher en devenant semblable à nous, afin que nous devenions semblables à lui. Si vous regardez attentivement les textes de l'Avent et les textes de les messes du jour de Noël, les textes du temps de Noël, vous verrez, mais même de l'Épiphanie, vous verrez que notre Seigneur Jésus-Christ a pris en prenant sur lui, en assumant totalement notre nature, en s'incarnant, eh bien, il a réalisé ce divin échange qui fait que, en prenant notre nature déchue, notre nature coupable, même s'il était sans péché, bien entendu, c'est pour cela qu'il est le Rédempteur, il nous a déchargé de cette nature et il nous a donné la nature divine au moins la possibilité de devenir enfant de Dieu, d'être fait enfant de Dieu et de participer à la nature divine par la grâce de Jésus-Christ justement. L'amour dont le Père céleste nous a aimés peut nous sembler honorifique, honorant et ennoblissant. Bien sûr, ce n'est pas rien pour une créature d'être aimée comme nous avons été aimés par un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. La créature est toute petite, elle est le néant par rapport à Dieu. Et Dieu, étant dit, ayant avoir aimé cette créature, cela peut nous sembler anoblissant pour la créature. Dans un certain sens, ce n'est pas faux, bien entendu, mais uniquement après la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas aimés pour ce que nous sommes, ce que nous étions plus précisément, puisque je parle des baptisés. Dieu ne nous a pas aimés pour ce que nous étions ou ce que nous sommes par nature. Dieu nous a aimés dans son Fils, il nous a aimés d'avance parce qu'il nous voyait déjà conformes à son Fils. C'est pour cela qu'il a pu nous aimer. Dieu le Fils est venu chercher ce qui était perdu. Dieu le Fils est venu, il s'est incarné, il est venu réparer ce qui était brisé. Il est venu guérir ce qui était malade. Il est venu sanctifier ce qui était impur et souillé. Et tout cela, c'était nous qui l'étions avant, de par la prévarication d'Adam, de par la faute originelle, le péché originel. Nous étions devenus ennemis de Dieu, nous étions devenus déviés de notre propre nature, nous étions devenus les enfants de la colère et les esclaves du diable. Dans sa première venue, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, est le réparateur, se manifeste comme le réparateur. Il s'anéantit afin, nous l'avons dit, de racheter l'homme déchu. La fête de Noël, eh bien, sonne la fin du désordre, sonne la fin de la chute de l'homme. Bien sûr, l'homme naît toujours déchu, mais avec l'apparition du Messie, eh bien, le Seigneur devait nous donner le sacrement du baptême, qui est le sacrement de la régénération. Notre Seigneur étant venu, si l'on peut dire, il a sonné la fin du désordre. La fin, et qu'est-ce que ce désordre? Ce n'est pas tellement les guerres, les maladies, les crimes, chose qui se voit encore aujourd'hui. Le désordre, c'est lorsque la créature s'aime elle-même d'un amour désordonné, c'est-à-dire qu'elle s'aime elle-même jusqu'au mépris de Dieu. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, du Fils éternel de Dieu dans la chair, a sonné la fin du désordre, la fin de la volonté, du règne de l'amour-propre. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la fête de Noël, amorce la victoire, annonce la victoire du Christ sur la volonté propre de l'homme. Elle seule est capable de réaliser. Quoi donc? Eh bien, cette venue, elle seule est capable de réaliser la crucifixion du vieil homme. Elle est dans un certain sens pour le monde, elle est pour le monde, pour les mondains, pour les hommes révoltés. Sous un certain rapport, elle n'est pas une bonne nouvelle, cette naissance du Christ. Elle n'est pas une bonne nouvelle, et cela a été une chose tellement évidente que très rapidement après sa naissance, Hérode, le roi Hérode, a cherché à le tuer, et en enveloppant dans sa haine tous les enfants de la région. La fête de Noël n'est pas une bonne nouvelle pour l'homme tel qu'il naît, enfant déchu d'Adam. L'homme révolté ne peut pas se réjouir réellement de la fête de Noël. L'amour de Dieu est toujours vu, toujours perçu par le vieil homme comme une agression, comme une violence, comme une aliénation. Sous un certain rapport, il n'a pas tort, puisque le vieil homme, étant en quelque sorte la concrétisation, si l'on peut dire cela comme ça, la concrétisation de la révolte contre Dieu, la révolte de l'homme contre Dieu, La restauration opérée par le réparateur apparaît comme une contre-révolte, si j'ose dire, si j'ose utiliser ce mot, de telle sorte que le vieil homme considère avec horreur l'œuvre du réparateur. Le vieil homme ne peut pas se réjouir de l'incarnation du Verbe éternel de Dieu, car il sonne la fin de son existence. L'amour de Dieu est donc toujours vu par le vieil homme comme une agression, une violence, une aliénation de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il nous restitue à notre Maître. Cet amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ nous restitue à notre vrai Maître, qui n'est pas le diable, mais qui est le Seigneur Dieu. Esclave du diable, nous lui obéissions en suivant notre propre pente. Pourquoi est-ce que les hommes ne se rendent pas compte, la majorité des hommes ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves du diable et qu'ils sont dans une situation épouvantable? C'est parce que leur esclavage du diable, par rapport au diable, consiste à faire exactement tout ce qui leur plaît, ou à vouloir faire tout ce qui leur plairait, parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas faire toujours ce qu'il veut, mais le désir est là. Faire ce que l'on veut, c'est être esclave du diable. C'est donc, sous un certain rapport, le plus cruel de tous les esclavages, et c'est en même temps la chose la plus douce à expérimenter, puisqu'il s'agit simplement de ménager ses intérêts et de faire dans la limite du faisable, évidemment, dans la limite de la liberté d'autrui, comme dit la loi, mais exactement ce qui nous plaît à nous. Esclave de Dieu, mes très chers frères, nous le sommes devenus par le baptême, par la résurrection spirituelle que nous avons obtenue, qui nous a été appliquée de par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né aujourd'hui. Esclave de Dieu, nous le sommes. La grâce divine nous est donnée, à nous, esclaves de Dieu, pour aller contre tout ce qui nous est natif, contre tout ce qui nous est spontané, et contre tout ce qui nous est naturellement aimable. Ne nous le cachons pas, mes très chers frères, le vieil homme cherche à trouver dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ des raisons de se réjouir, des raisons illusoires de se réjouir. Il se réjouit pour toutes sortes de raisons, mais il se lamente pour la seule raison qui est vraiment la raison pour laquelle nous nous réjouissons, nous, hommes spirituels, par la grâce de Dieu, et pour laquelle il est venu, c'est-à-dire il nous a arrachés à la tyrannie de nous-mêmes, et donc à la tyrannie du diable. C'est pour cela que, c'est notre deuxième point, saint Paul dit dans l'Épître, écoutez cette magnifique Épître, « La grâce de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée à tous les hommes, pour nous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, afin de vivre ici-bas dans la sobriété, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, lequel s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. » Certains théologiens, certains commentateurs disent que dans ce seul verset de l'épître de saint Paul à Tite, est résumé, si on peut dire, l'entièreté de la religion chrétienne. La grâce de Dieu a été manifestée. La grâce de Dieu, notre Sauveur, a été manifestée. Nous pourrions faire toute une série de sermons sur chacun de ces mots et les prendre dans leur ordre, dans l'ordre qu'ils viennent, pour montrer que toute la religion y est exprimée. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette manifestation de la grâce de Dieu. Tout l'évangile est résumé dans ces quelques versets. La grâce du Rédempteur, Rédempteur qui ne nous devait rien, depuis que nous avions prévariqué, depuis que nous avions rompu l'alliance qu'il avait faite avec nous, dans la personne de nos premiers parents, la grâce du Rédempteur, Rédempteur qui ne nous devait rien, nous est donnée souverainement, c'est-à-dire alors que nous ne la voulions pas. C'est-à-dire que nous sommes faits pour recevoir la grâce. Dieu nous a créés en état d'innocence pour nous enrichir des grâces gratuites qu'il voulait nous donner et qu'il a données à notre premier père, qu'il a perdu par la suite. Nous sommes faits pour la grâce de Dieu. La seule chose, l'homme qui vit pour lui-même, c'est-à-dire le vieil homme, la chair, celui qui suit la concupiscence, le mondain, eh bien l'homme naturel n'aime pas ce pour quoi il est fait. Et comment pourrions-nous avoir commencé à aimer ce pourquoi nous sommes faits, si Dieu ne nous avait pas fait, comme dit Bossuet, cette douce violence qui consiste à nous remettre dans notre droit chemin, à nous remettre dans notre propre ordre. Un petit peu comme celui qui s'est fait une luxure de l'épaule voit approcher le médecin qui sait s'y prendre, il voit le tordre dans tous les sens, il a l'impression que le médecin est un bourreau, alors qu'en réalité, le médecin lui remet les os, les articulations en place. Il crie peut-être de frayeur en voyant le médecin faire des actes d'une certaine violence envers lui, mais si cette violence n'était pas exercée envers lui, il ne redeviendrait jamais normal. Et il resterait toute sa vie déboîté. Eh bien pour nous, mes très chers frères, c'est la même chose. Nous serions restés toute notre vie esclaves du diable, aliénés de ce que nous sommes réellement, si Dieu n'était pas venu, en la personne de son Fils, nous appliquer la grâce du Rédempteur, de telle sorte que nous faisant cette très douce violence qui s'accorde totalement avec la nature et la pente même naturelle de notre volonté, il nous a souverainement donné sa grâce, la grâce du Rédempteur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. En ne voulant pas cette grâce, nous voulions notre mal, nous voulions notre damnation et nous la voulions tellement positivement que la théologie nous dit que nul ne va en enfer. Qui nul ne se damne, qui ne se damne volontairement. C'est vraiment volontairement que nous ne voulions pas de Dieu. Nous ne voulions pas de Dieu volontairement, mais parce que notre volonté était trop faible pour vouloir son propre bien. Un petit peu comme, si j'ose prendre une comparaison triste, un peu comme le drogué qui voudrait bien être sain, être débarrassé de cette terrible addiction, mais dont la volonté ne peut que s'exercer sur le fait de rechercher activement la prochaine dose de drogue dont il a besoin, et qu'il sait pertinemment à la fois détruire petit à petit son corps et lui apporter un soulagement immédiat. Eh bien l'homme, mutatis mutandis, est l'homme déchu et comme cela. C'est-à-dire qu'il sait bien au fond de lui-même qu'il est fait pour Dieu. Mais la seule chose qu'il peut vouloir, c'est le prochain assouvissement de sa concupiscence. Et c'est une chose qui est à la fois très mystérieuse et malheureusement très compréhensible. Eh bien, notre Seigneur, en remettant notre volonté dans son bon sens, en nous rendant notre liberté, la totalité de notre liberté, nous a rendus capables de vouloir être sauvés, de ne plus vouloir notre damnation. Et c'est un des premiers effets de la grâce du Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un des premiers effets de la grâce du Rédempteur que de nous restituer notre liberté que nous avions perdue, notre volonté qui était si malade qu'elle ne pouvait vouloir que son propre mal. La grâce du Rédempteur, la grâce de Dieu notre Sauveur qui s'est manifestée, eh bien, dit saint Paul, elle nous apprend. Elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend deux choses. Elle nous apprend tout d'abord à renoncer. La foi est aussi un apprentissage de la justice. La foi ne consiste pas uniquement, nous dit saint Jacques, à croire tout ce que croit l'Église. Si nous ne croyons pas tout ce que croit l'Église, et uniquement ce que croit l'Église, nous ne pouvons pas être dit avoir la foi, ayant la foi. Nous sommes hérétiques, hétérodoxes, que sais-je, nous ne sommes pas chrétiens. Maintenant, il s'agit de croire et de se laisser instruire par la foi. De telle sorte que la foi reçue, en une seule fois, si j'ose dire, reçu, nous croyons tout ce que l'Église nous enseigne, eh bien, deviennent un apprentissage de la justice. La justice n'est autre que, nous dit saint Augustin, notre père saint Augustin, la charité en acte, en réalité. La foi n'est autre que l'apprentissage de la justice, c'est-à-dire de la charité en acte. Elle nous apprend à renoncer et elle nous apprend à vivre. Renoncer, à quoi donc? Renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. C'est-à-dire renoncer à nous-mêmes. Renoncer à tout ce qui autrefois faisait le propre du moteur de notre volonté. Nous ne voulions que notre destruction, c'est-à-dire nous voulions notre plaisir faire ce que nous voulions. Eh bien, la grâce nous apprend à renoncer à cela. Pour le vieil homme, effectivement, ce sont des paroles agressives. Ce sont des paroles qui sont contraires à sa volonté propre, ce sont des paroles qui s'opposent de front à la triple concupiscence. Mais nous devons comprendre, parce que nous sommes des hommes spirituels par la grâce de Dieu, que ces paroles sont véritablement les paroles de libération. Nous sommes véritablement libérés de la tyrannie du diable et de nous-mêmes lorsque la grâce de Dieu nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Et la grâce de Dieu nous apprend à vivre. À vivre pour Dieu. C'est pour ça que saint Paul dit, et à vivre ici-bas dans la sobriété, la justice et la piété. Nous pourrions penser que le Fils éternel de Dieu s'est incarné pour nous apprendre des mystères extraordinaires, des mystères inouïs, pour nous apprendre à briller d'une certaine manière, à nous extraire de notre condition humaine, à faire des miracles comme lui. Eh bien, pas du tout, mes très chers frères. Il nous a été manifesté, ce Rédempteur, ce divin Rédempteur, afin que nous apprenions à vivre ici-bas dans la sobriété, la justice et la piété. L'homme charnel, en quelque sorte, est déçu par un tel programme. Il s'imagine, lui qui est hypocrite, il s'imagine que le Fils éternel de Dieu est venu pour nous apprendre des choses qui flattent notre curiosité, sinon nos sens, mais qui, du moins qui flattent notre curiosité, qui nous flattent sinon dans la concupiscence de la chair, sinon dans la concupiscence des yeux, du moins dans l'orgueil de la vie. C'est ce que cherchent tous ces gens qui cherchent des doctrines secrètes, qui cherchent des choses que l'Église ne leur promet pas, parce qu'en les cherchant, ils n'en sont pas dignes. La grâce de Dieu, manifestée en notre Seigneur Jésus-Christ, nous apprend à vivre pour Dieu, dans la pratique des bonnes œuvres, en attendant l'avènement, dit saint Paul, l'avènement glorieux du Christ. Ce sont les deux faces de la gratitude, de notre gratitude. Nous sommes baptisés, mes très chers frères, nous sommes reconnaissants pour ce que la grâce de Dieu a fait de nous. Eh bien, en étant reconnaissants, d'un côté, nous renonçons, et d'un autre côté, nous renonçons à nous-mêmes, et d'un autre côté, nous vivons pour Dieu. Voilà les deux aspects, les deux faces de la gratitude chrétienne. La grâce, eh bien, mes très chers frères, est une marque de faveur de Dieu. Dieu nous a fait la grâce, justement, nous a manifesté l'amour qu'il avait pour nous en nous apprenant à renoncer à nous-mêmes et en nous apprenant à vivre pour lui. Et ce faisant, il nous ouvre la porte du véritable bonheur, bonheur éternel, bien entendu, mais bonheur dont nous pouvons substantiellement déjà appréhender un certain nombre d'aspects ici-bas, parce que c'est une grande source de consolation que le contentement avec la piété, dit saint Paul, c'est une grande source de consolation que de se conformer aux maximes de l'Évangile et à elle seule. Dans l'Évangile, justement, les anges, l'armée céleste, louant Dieu, disaient aux bergers, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté. » On pourrait faire l'étude de cette expression, « les hommes de bonne volonté », et on pourrait voir comment, dans ces deux derniers siècles, cette expression a été non seulement profanée, comme beaucoup d'expressions, mais a été complètement retournée. Les hommes de bonne volonté, comme on dit aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont disposés spontanément à bien faire. Ça veut dire exactement le contraire dans l'Évangile. Les hommes de bonne volonté signifient les hommes qui sont l'objet de la bonne volonté divine. Voilà le véritable sens des hommes de bonne volonté. Le deuxième sens, est, mettons un sens de réponse, un sens de gratitude. Si Dieu a manifesté sa bonne volonté envers nous, à combien plus forte raison la manifesterons-nous, nous, pauvres créatures, envers lui. Mais l'expression commune est quand même un contresens, en réalité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes auxquels la volonté salvifique de Dieu est manifestée. La bienveillance divine se manifeste à qui elle veut se manifester, selon ces paroles de notre Seigneur, du Seigneur Dieu à Moïse, « Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. » Elle réalise la bienveillance divine, elle réalise la paix. La paix à tout niveau, la paix avec Dieu, par la réconciliation que le réparateur nous a acquise par son sang. La paix avec nous-mêmes aussi, puisque par cette rectification de l'homme, par la grâce qui donne la justice, par la charité, eh bien, nous avons cette restitution à notre raison d'être originelle. Si nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous devons savoir nous porter à nous-mêmes l'amour que nous devons nous porter. Et nous devons, en nous aimant nous-mêmes, nous aimer nous-mêmes droitement, signifie vouloir pour nous le salut, c'est-à-dire vouloir pour nous l'inféodation à Dieu, l'esclavage divin, afin de pouvoir être véritablement ce que nous devons être, et le souhaiter ensuite à notre prochain. Et bien entendu, vous l'avez compris, réconciliation, paix avec le prochain, en général, mais par le baptême, nous avons toute une série de prochains qui sont très proches, et qui sont les membres, nous sommes membres les uns des autres, c'est-à-dire ce sont les autres baptisés, les catholiques, les vrais catholiques, qui sont frères, avec lesquels nous sommes frères et co-héritiers du Christ. Voilà quelque chose qui, la seule contemplation de cette vérité suffirait à elle seule à nous remplir de gratitude envers Dieu et d'amour envers nos frères. Nous avons été, disais-je, arrachés à la tyrannie de nous-mêmes. C'est ce qu'exprime le graduel de la première messe de Noël lorsqu'il est dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, siège à ma droite, tandis que je fais de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Quelle plus grande marque de délivrance par rapport à la tyrannie du démon que de savoir que non seulement le démon, mais en quelque sorte le vieil homme, je dis en quelque sorte car il est plutôt une négation de l'être qu'un être positif, mais le vieil homme a été fait l'escabeau des pieds du Christ. Alors évidemment, si quelque chose en nous tique en quelque sorte et nous fait penser qu'en ce jour de Noël, être appelé l'escabeau des pieds du Christ est quelque chose de peu joyeux et de plutôt humiliant, sachons, mes très chers frères, que c'est moins le baptisé en nous qui pense que le vieil homme qui domine en nous, la concupiscence qui domine. Si le fait de savoir que les ennemis du Christ sont transformés en quelque sorte en l'escabeau de ses pieds, qu'ils sont prosternés à terre pour que le Christ mette ses pieds dessus comme un vainqueur sur ses ennemis, si cela ne nous remplit pas de joie en sachant que nous ne sommes pas de ses ennemis, mais nous sommes de ceux qui triomphent en lui, étant membres de son corps mystique, alors, mes très chers frères, sachons que nous sommes dans l'ingratitude si nous sommes de sentiments différents. Et si nous sommes dans l'ingratitude, c'est que, après tout ce que le réparateur a fait pour nous, nous sommes encore capables, nonobstant cette volonté qui a reçu le pouvoir d'être droite par la grâce de Dieu, eh bien, nous sommes à deux doigts de, comme dit notre Seigneur lui-même, de retourner à notre vomi et de retourner nous plonger dans notre bourbier, qui était notre autrefois. Dans la troisième messe de ce jour, il y a une oraison, l'oraison collecte, est absolument magnifique de simplicité. Faites, ô Dieu Tout-Puissant, que la nouvelle naissance de votre fils unique dans la chair nous délivre, nous que l'antique esclavage retient encore captif sous le joug du péché. Ce n'est pas, à proprement parler, une prière pour un chrétien, à strictement parler, parce que par le baptême, il a été délivré de cet antique esclavage. Mais, exceptionnellement, le chrétien parle au nom de l'humanité, il parle au nom des hommes qui sont encore sous le rapport de la tyrannie du diable, sous l'esclavage du démon. Et donc, se souvenant de ce qu'il était et de ce que par la grâce de Dieu il n'est plus, il prie au nom des autres hommes afin que ces autres hommes aussi reçoivent la grâce de pouvoir être délivrés de cet antique esclavage. C'est notre troisième point. Cette délivrance du joug du péché commence, l'efficace de la délivrance du joug du péché commence dès la crèche. Et il nous faut aller très vite, mais vous allez voir que tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà fait simplement lorsqu'il était à la crèche, lorsqu'il s'est contenté, si j'ose dire, il a commencé par naître de la très sainte Vierge Marie. Écoutez comment le Christ nous a obtenu efficacement la délivrance du joug du péché. Premièrement, le Christ a obéi dans les personnes de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, son père adoptif, il a obéi à l'empereur qui a demandé, a imposé à tout le monde d'aller se faire enregistrer dans leur ville d'origine. Il a obéi à l'empereur, il a exercé la vertu d'obéissance pour guérir notre rébellion. Ensuite, nous disent les auteurs, il obéit aux lois de la nature en naissant de sa mère, elle qui est l'Immaculée Conception, et en naissant de sa mère, lui qui est le Fils éternel de Dieu, en naissant de sa mère, uniquement lorsque les temps furent accomplis, nous dit l'Évangile, furent pleinement accomplis, pour guérir notre impatience. Notre impatience qui bien souvent vient faire en quelque sorte échouer le plan de Dieu à notre niveau. Lui qui était Dieu, lui qui pouvait, lui qui était en tant qu'être humain, en tant que petit enfant, en tant que petit enfant à naître, lui qui était déjà doté de la raison, qui était doté de tout ce que un Dieu uni à un homme peut doter son humanité, il a voulu attendre le temps que lui-même a fixé à la nature pour naître, pour guérir notre tragique impatience, impatience dans les épreuves, mais aussi impatience dans la sanctification. N'oublions pas que nos premiers parents sont tombés parce qu'ils ont été impatients, non pas de goûter les joies du monde, mais de goûter les délices de la béatitude. Ils ont été impatients. Et la patience de notre Seigneur nous guérit, nous obtient la guérison de notre impatience. Ensuite encore, notre Seigneur guérit notre orgueil en se soumettant aux rebuffades même d'un hôtelier. Il a dû naître dans une crèche, dans une étable, plus précisément, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On aurait pu penser que Saint Joseph, les rois mages, les bergers, qui ont été prévenus par des anges, on aurait pu penser qu'un hôtelier aurait pu être prévenu à l'avance pour garder sa meilleure chambre pour la Sainte Famille. Eh bien, cet hôtelier les a mis dehors en leur disant qu'ils n'avaient plus de place pour eux. Il a guéri notre orgueil. Comment pouvons-nous encore être offensés des offenses et de la méchanceté, ou disons de la dureté, sinon de la méchanceté, du moins de la dureté des hommes, puisque notre Dieu, le Fils éternel de Dieu, est né après que ses parents aient été, en quelque sorte, rejetés, ou qu'on leur ait dit que l'autel est incomplet, on ne pouvait pas les accepter. Comment pouvons-nous être encore orgueilleux? Ensuite, quoique roi, notre Seigneur naît dans une étable pour nous apprendre la pauvreté volontaire, la vertu de pauvreté. Ensuite, les auteurs nous disent, il naît en hiver, aujourd'hui justement il fait très froid, il naît en hiver pour nous apprendre la souffrance volontaire en l'esprit de pénitence. Il naît en hiver dans une saison rude, il naît dans une étable abandonnée, entre des animaux qui se trouvaient là. Parce qu'il logeait dans cet étage, dans cette étable délabrée, il est né dans ce contexte pitoyable pour nous apprendre l'amour de la pauvreté, pour nous apprendre l'amour de la souffrance. Il se cache aux yeux des grands et il se montre aux petits, aux bergers, pour guérir notre désir de paraître et d'être reconnu. Et tout cela, mes très chers frères, en tout cela, il a obéi à l'ordre de son Père, réparant ainsi les déviations de notre volonté qui se cherche en tout elle-même. Il n'a pas fait sa volonté, mais il a fait la volonté de son Père. Et son Père n'a pas voulu qu'il naisse dans un palais de roi, il a voulu qu'il naisse dans une étable entre deux animaux pour figurer justement ces animaux, ces hommes animaux qu'il allait sauver, sachant qu'il est né entre deux animaux et il est mort entre deux larrons. Sachant que l'un de ces deux larrons a reçu la grâce, lui qui avait commencé par l'insulter comme l'autre. En tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ a obéi scrupuleusement à l'ordre de son Père, réparant ainsi la déviation de notre volonté qui se cherche en tout elle-même. Alors, mes très chers frères, si le Fils de Dieu a embrassé si fortement des humiliations qu'il n'avait pas à subir, que nous-mêmes, par grâce et par gratitude, nous embrassions l'esprit de pénitence, mes très chers frères, dont nous avons tant besoin et à juste titre. Demandons cet esprit de pénitence, demandons-le au milieu des transports de joie, demandons-le au pied de la crèche de cet enfant Jésus que nous avons vénéré il y a un instant, cet enfant Jésus dont nous avons entendu la généalogie prestigieuse et glorieuse, la généalogie royale, au pied de la crèche durant ce temps de Noël. Demandons-lui, mes très chers frères, pour nous et pour nos frères, l'esprit de pénitence, afin que nous puissions vivre toute notre vie en mettant à profit cette grâce, la grâce du réparateur qui aujourd'hui est né et qui remplit nos cœurs de joie. Gloire à lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.